chers auditeurs de Radio Sépharade, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Dominique Bourrel, directeur de recherche au CNRS et professeur invité à l'Université Humboldt de Berlin. Passionné des grandes figures intellectuelles du judaïsme allemand du XVIIIe au XXe siècle, il est l'auteur d'une biographie de Martin Buber, à qui il a consacré 20 ans d'études. Cet ouvrage est intitulé « Martin Buber, sentinelle de l'humanité » et il est publié en 2015 par Albin Michel. Dominique Bourrel, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, d'où est venue votre fascination pour Martin Buber, qui a résulté dans un ouvrage aussi important ?
Écoutez, d'abord parce que c'est un personnage fascinant, c'est le premier point. Et deuxième point, comme vous le savez, j'ai effectivement, vous l'avez rappelé, consacré une grande partie de mon travail et de mes recherches à l'histoire intellectuelle du judaïsme allemand, ayant commencé avec Moïse Mendelssohn. Et donc, il me semblait que de consacrer un peu de temps à Martin Buber, ça valait la peine, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, en français, il y a pas mal de traductions remarquables d'ailleurs de Martin Buber, mais on n'a toujours pas de biographie. Et donc je pensais que ça valait la peine. Je dirigeais à ce moment-là, c'est plus le cas maintenant, mais je dirigeais à ce moment-là le centre de recherche français de Jérusalem, et comme Buber a laissé 50 000 lettres, j'avais quelques années pour pouvoir régulièrement aller consulter cette collection, et c'est la raison pour laquelle, ayant eu aussi le privilège de connaître Margot Kuhn, sa dernière secrétaire, et même son fils Raphaël, c'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure.
50 000 lettres, est-ce que vous les avez toutes lues ?
Écoutez, je pense que oui, il y a 50 000 lettres, là-dedans il y a des lettres qu'il a reçues, hein, et il y a des lettres qu'il a écrites, et toutes ne sont pas aussi passionnantes, et la plupart du temps c'est aussi parfois juste des petits mots, puisque comme vous savez, une grande partie de son existence, il y avait bien évidemment ni fax, ni internet, et même parfois à Jérusalem, quand il est arrivé en 38, assez peu de téléphones. Donc après c'est des dossiers qui sont classés, et donc c'est quand même pas très difficile de les feuilleter et de s'arrêter assez souvent, je dois dire, quand on tombe soit sur des interlocuteurs importants, soit sur des contenus très importants.
Mmh. Oui, donc vous avez mentionné son existence à Jérusalem à partir de 1938. Oui. Mais revenons à sa naissance en 1878 à Vienne. Ensuite, ces années où il a grandi à Lemberg, en Galicie, qui est aujourd'hui une ville d'Ukraine. Et ensuite, toutes ces années où il a étudié, et donc il a voyagé pour ses études. En plus, il parlait énormément de langues. Je ne sais pas exactement, vous allez nous le rappeler peut-être. Mais est-ce que vos recherches vous ont mené vers ces mêmes voyages et vers l'apprentissage de ces mêmes langues ?
Alors écoutez, il y en avait quand même quelques-unes qui sont assez communes, le latin, le grec, le français, l'anglais, l'allemand, le yiddish, ça en fait quand même quelques-unes qu'on peut partager. En revanche, effectivement, il a été scolarisé, vous l'avez dit, à Lemberg en polonais, et donc c'est l'une des grandes différences d'ailleurs avec son élève et son ami et son alcibiade Gershom Scholem. Et quant au voyage, j'ai effectivement, je me suis un peu, enfin pas qu'un peu, promené un peu partout. J'ai eu la chance d'avoir fait un an d'études aux États-Unis, pas pour cela, mais j'ai aux États-Unis rencontré par exemple le grand professeur Alexander Altman, qui était des personnes qui avaient très bien connu Buber, avec lequel à l'époque, sans savoir que j'allais consacrer une biographie à sa figure, parler de Buber. En fait, ma première rencontre avec Buber, c'est tout simplement au cours d'Emmanuel Lévinas, qui était professeur de métaphysique et de philosophie générale à la Sorbonne, donc même pas à l'école normale israélite orientale, mais à la Sorbonne, et où il nous enseignait plutôt Husserl et Heidegger d'ailleurs, mais de temps en temps il lâchait comme ça quelques termes, et comme il savait que je m'intéressais déjà à ces questions-là, puisque j'avais une casquette de germaniste, alors on entendait comme ça ces noms-là, Franz Rosenzweig, Hermann Cohen, Martin Buber, et après, comme vous le savez, c'est des choses qui se déroulent, si je puis dire, tout seul. Et je dois aller à Lemberg là, cette année, parce que Lemberg est encore plus intéressant à cause de toute la famille de Martin Buber, notamment son grand-père, qui a eu une très très grosse influence sur lui, Salomon Buber, qui était un éditeur des Midrashim, en même temps un banquier, quartier, etc. Et donc, j'espère pouvoir passer un petit moment dans les archives à Lemberg. Malheureusement, je connais ni l'ukrainien, ni le russe, ni le polonais. Mais enfin, je pense qu'on devrait quand même pouvoir s'en sortir, puisque, comme vous le savez, à l'époque, Lemberg était une ville austro-hongroise, comme Tchernovitz. Et donc, une grande partie des archives sont, bien sûr, en allemand. Quand elles ne sont pas en français, puisque Buber savait très très bien le français, il y avait d'ailleurs chez lui, comme dans toutes les grandes familles ashkénazes, une professeure de français, et en français, une mademoiselle, comme on disait. Et donc voilà, ça fait partie de la découverte, effectivement, d'une personnalité et d'une intelligence. Mmh.
Assez vite, Buber s'est orienté vers un sionisme culturel. Il prenait en tout cas ce sionisme culturel. Quelles traces de ce sionisme culturel pourrait-on trouver encore aujourd'hui en Israël ?
Alors c'est justement une question très importante, parce qu'il y en a qui racontent qu'il est totalement oublié, qu'il n'existe plus, etc. Et d'autres qui au contraire pensent que qu'il avait raison sur beaucoup de choses, et que c'est une des voies importantes qu'il faut de nouveau trouver. La qualification politique de l'État d'Israël actuel n'appartient pas ni à moi, ni je suppose au registre de cette émission, mais donc c'est très curieux, parce qu'il y a une espèce de double vie. Partout où vous rentrez chez les gens en Israël, où j'habite donc depuis de nombreuses années, vous trouvez un volume de Buber. C'est souvent d'ailleurs Oraganus, c'est-à-dire le texte sur les chassidis. Et puis aussi, vous trouvez une conscience très très profonde de l'idée que on pouvait pas faire un pays et vivre un pays heureux avant un accord avec les Arabes. Et donc parfois c'est expliqué, parfois c'est tu, mais il suffit de d'ouvrir son téléviseur tous les soirs pour bien savoir que ce message-là du sionisme culturel, qui était un véritable sionisme reconnu même par Herzl, il y a eu des débats sans fin entre Herzl et Buber. Buber admirait beaucoup Herzl, et ensuite entre Ben-Gourion et Buber. Les deux étant, j'allais dire, complémentaires. L'un est un réel politiqueur, Ben-Gourion, et l'autre étant un prophète, un philosophe, quelqu'un qui doit soulever les questions qui se posent. Et donc je crois qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit, je ne parle pas du niveau universitaire, où Buber est très lu, commenté, il y a des nouvelles traductions de Jeux et Tu, il y a eu beaucoup de colloques pour les 50e anniversaire de sa mort, mais même dans l'opinion publique actuelle.
Justement, en parlant de Je et tu, qui est considéré comme son grand chef-d'œuvre, qu'il a publié en 1923, il y affirme que l'homme devient un je en contact d'un tu. Comment pourrait-il encore faire passer son message de dialogue et d'altérité, justement, dans l'Israël d'aujourd'hui, et peut-être voir dans le monde d'aujourd'hui ?
Mais écoutez, je pense que cette expérience-là, en réalité, beaucoup de gens la font. Qu'il soit de droite, de gauche, politisé, pas politisé. Il y a très peu de gens qui vivent en dehors du dialogue, contrairement à ce qu'ils le pensent. Et même ceux qui vivent seuls, ou les moines, ou les anachorètes dans le désert, etc., sur le rapport avec la nature, vous savez que dans le jeu et tu, vous avez bien vu, il y a aussi un rapport avec la nature, avec les animaux, avec l'idée que il faut être deux pour faire un enfant. C'est-à-dire que la totalité fermée sur soi-même est quelque chose de mortifère, et qui d'ailleurs n'existe presque pas quand on réfléchit. J'allais dire, même en vous parlant, même les atomes, il faut les bombarder, il faut qu'il y ait un bombardement entre deux atomes, sinon il se passe rien. Donc si vous voulez, je pense que toute cette connaissance de la vie dialogale, si on l'interprète pas tout de suite comme quelque chose de moralisateur, de casse-pied, de réactionnaire, tous les débats, par exemple, avec la psychanalyse, avec la psychiatrie, le rapport même avec votre médecin, le premier doctorat honoris causa qu'il ait reçu après la guerre était celui d'une université allemande, l'université de Münster, et c'était un doctorat donné par la faculté de médecine, lui qui n'était pas médecin, bien sûr, en disant, mais le jeu est, c'est ce qu'on fait tous les jours, toute la journée, dans notre cabinet. Donc vous voyez, c'est une partie de ce message qui est, je crois, extrêmement actuel. Le deuxième concerne plus, bien sûr, l'histoire de la pensée, l'histoire de la philosophie, qui cherchait à mettre en question la métaphysique idéaliste classique, comme son ami Franz Rosenzweig, comme l'un de ses maîtres, Hermann Cohen, c'est-à-dire l'idée que vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, en Europe, d'ailleurs, ce sont des idées qui sont partagées par beaucoup, en Europe, on est en train de liquider le vieil héritage métaphysique. Pourquoi ? Parce qu'après la Première Guerre mondiale, on a vu que finalement la métaphysique et la philosophie classique de donc de Platon à Hegel, ne menait que, qu'à une sorte de totalitarisme, pas uniquement au totalitarisme, mais qu'à une sorte de totalitarisme. C'est d'ailleurs aussi le message de l'école de Francfort, qui a été très lu pendant longtemps en France, en Israël et en Allemagne, dont les grands philosophes, comme par exemple Max Horkheimer, étaient bien évidemment très liés et contemporains de Martin Buber.
Mmh. Il était aussi très préoccupé par la situation en Israël ou dans Eretz Israël avant la création de l'État, notamment vis-à-vis des voisins palestiniens. Aujourd'hui, avec le recul, quels enseignements pourrait-on tirer de sa pensée quant au conflit qui perdure avec ces Palestiniens ?
Mais d'abord, c'est qu'il avait raison sur ça, c'est-à-dire qu'il fallait pas. Mais au moment, ça c'est très difficile de parler de ça, puisque la réflexion avant 38 ou avant 40 est une réflexion avant la Shoah. La réflexion après 45-48 est une réflexion après la Shoah. Il le savait bien d'ailleurs. Je rappelle qu'il est arrivé, vous l'avez dit tout à l'heure, en 1938, et il n'a pas bougé, y compris pendant le siège de Jérusalem. Il est resté à Jérusalem et il s'est toujours considéré non seulement comme un Israélien, mais comme quelqu'un, un habitant de Jérusalem. Contrairement à beaucoup qui faisaient des allers-retours avec les États-Unis, avec d'autres pays, etc. Et donc, si vous voulez, il sait bien que un de ses grands messages a été très peu écouté, qui était l'idée qu'il fallait que ce soit d'abord, par exemple, un pays bilingue, qu'il fallait qu'il y ait des bibliothèques arabes dans toutes les villes, dans tous les villages, que l'arabe soit absolument obligatoire dans tous les pays et dans toutes les écoles en Israël, et pas seulement pour les futurs officiers du renseignement. Et aujourd'hui, comme vous le savez, les chiffres qui sont publiés sont bien sûr catastrophiques. Je crois qu'il y a un dixième ou même pas d'Israéliens qui sont capables de lire un livre en arabe. Je ne parle pas, encore une fois, des officiers du renseignement. Et ce qui est d'ailleurs aussi presque, sinon compréhensible, du moins explicable, c'est que c'est toujours une situation ami-ennemi. Et donc on comprend très bien que des deux côtés d'ailleurs, à part quelques conduites prophétiques, heureusement, des deux côtés, on n'ait pas envie de s'intéresser sur l'histoire de l'autre. Et comme vous êtes aussi pas très loin, vous savez très bien qu'entre Tel Aviv et Jérusalem, il y a un abîme. À Tel Aviv, vous ne voyez pas un arabe ou très peu. Tel Aviv a été fondée, venue de rien en 1909. Et donc là, rien n'a été ni acheté, ni volé, ni rendu. Et c'est donc une situation effectivement très très préoccupante, notamment quand le chauvinisme politique s'en mêle.
Mmh. Bien. Pour terminer, je suis un peu curieux. J'aimerais savoir vers où s'orientent vos recherches actuellement.
Bon, maintenant, c'est très simple. Comme vous savez, je travaille plutôt sur les Juifs heureux et pas du tout sur une histoire juive thanatocentrée qui ne parle que de la mort, que de la Shoah. Et je fais actuellement un petit livre sur Einstein, puisque tous les papiers d'Einstein sont aussi à Jérusalem. Il y en a un tout petit peu moins, là, 40 000. Mais là, on a de très très bonnes biographies traduites dans toutes les langues. Et donc, je fais un livre sur être juif à Berlin du temps de Einstein. C'est-à-dire, il est arrivé en 1914 et il en est parti en 1933 pour la petite collection de Madame Adas-Lebel. Et donc, d'abord, ça devrait me prendre moins longtemps. Malheureusement, d'ailleurs, mais c'est tout aussi fascinant parce que, bien évidemment, Einstein est un personnage qui est au sommet du monde, qui est non seulement une grande intelligence, mais en plus c'est une personnalité extrêmement attachante, avec des rapports, comme on le sait bien, très très fascinants avec le monde juif et avec le sionisme. Alors je suis là-dedans.
Bien, moi en tout cas j'adhère totalement à vos recherches sur les Juifs heureux. Dominique Borel, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
À la prochaine.
Ok, bonne journée, au revoir.
Au revoir.